6 millions.
Vous pouvez vous taire parce que là on est en direct.
16 millions d'auditeurs.
Si l'intro, ce serait sympa. 6 milliards d'auditeurs.
6 milliards.
À peu près. On espère bien faire 10 dans la soirée. Bonsoir à tous et à toutes. Désolé pour cette introduction un petit peu rocambolesque, j'ai envie de dire.
On est dans une église.
C'est absolument faux. Nous sommes mardi, il est 21h et c'est l'heure du Dojoba en 8 bits. Voilà, bonsoir à tous et à toutes, je galère avec la construction score. Voilà, c'est bon. Bonsoir Méduse.
Salut Mortal.
Et bonsoir à nos fabuleux invités. Bonsoir Frosties, qui fait de l'écho.
Bonsoir.
Frosties voilà, de Nintendo Man qui est venu nous rejoindre. Et bonsoir Kaliken.
Bonsoir.
Donc c'est le dépucelage de Dojo Bar ce soir.
Oui.
Soyez doux.
C'est pas trop quoi il s'expose.
C'est pas trop à quoi il s'expose et qui est un des organisateurs de DS in Paris.
Tout à fait.
Et très heureux de d'avoir ce soir. Au programme de ce soir, on va pas du tout parler de DS in Paris. Quelqu'un qui vient. Donc
tout
on va
à
pas
fait.
Le faire dans la pas deuxième partie de la pas émission du coup. Et donc en première partie de l'émission, nous allons fêter notre générique peut-être remarqué donc les 25 ans de la Game Boy. Au
du
passage,
Game Boy,
je, alors je me permets de préciser ouais, parce que je savais que tu allais faire
Boy.
La remarque.
Pareil, m'avait dit.
Tu savais hein.
Non, je le savais. On peut dire une Game Boy puisque en langue française, un objet peut prendre le genre de son qualificatif. Donc tu peux dire la Noël pour dire la fête de Noël et le Noël pour dire le jour de Noël. Voilà, donc je te merde, c'est français. C'est approuvé par ma maman qui est prof de français.
Comme il pète l'ambiance le mec.
Non mais j'ai demandé dès le départ. Mais nous allons commencer tout de suite, avant que je pète l'ambiance, nous allons commencer tout de suite par notre traditionnel tour de table de l'actu. C'est Méduse qui va ouvrir le bal parce que je ferme pas ma gueule depuis tout à l'heure et c'est pas bien.
Bon ouais, mais je commence avec toi du coup moi.
Mario Golf.
Bon, ceux qui suivent un petit peu l'actualité, ils auront capté que Mario Golf sort très bientôt, le 2 mai. Ils auront capté aussi que Nintendo innove dans sa médiocrité, puisque ils ont décidé que, ben voilà, pour Mario Golf, ils vont faire un season pass. Pratique qui est devenue courante pour les jeux à gros budget. Alors, bon, Mario Golf, c'est pas tellement un jeu à gros budget. Là, ça reste encore raisonnable. Ce Zone Pass, il sera 12€. Et il va ajouter plein de trous. Il va presque doubler le nombre de trous.
Et voilà. Je ne ferai pas de remarques sur le doublement du nombre de trous, c'est hors de question.
J'y suis absolument pour rien, c'est pas moi qui choisis le nombre de trous. Hein.
Il y avait combien à la base? Il y avait plusieurs 18 trous, c'est ça? Il y avait 3 18 trous, si je dis pas de bêtises?
Il y avait des 9 trous et des 18 trous, je crois, hein, genre moite-moite. Enfin, à la base, ça correspondait à peu près à ce qui se fait dans tous les Mario Golf précédents, 64 et GameCube, donc ça doit être une histoire de 100, dans le tour de 110, je crois, et ça va en jeter peut-être 80, aller à la grosse louche, quoi. Et voir ajouter en plus de ça un ou deux personnages. Il va y avoir 3 paquets de DLC. Un disponible à la sortie, c'est vraiment pour montrer qu'on enfile les gens, puis les autres vont suivre par après. Et un DLC tout seul, c'est 6€, et si on prend le Season Pass, ça coûte 12€, donc on en a un gratos. Alors, jusque-là, on va dire que c'est assez anecdotique, parce que de toute façon, Mario Golf, on en fout à peu près.
Bah, Mario Golf, là où ça devient... enfin, moi j'aime bien Mario Golf, mais c'est vrai que je n'irai pas dépenser du pognon dans un DLC de Mario Golf. Hein. C'est très clairement.
Bah, après, enfin, faut voir, enfin, je veux dire. Si t'as quasi le double de contenu pour 12€, allez, bon, tu vois, si le jeu tu payes 35, entre 35 et 40€ à la base, c'est pas encore trop la mort. On est loin du DLC sur un jeu acheté à 60-65€, le season pass qui va coûter 20€ pour ajouter
non, mais, pour map, tu vois, c'est pas la vérité. Par principe, faut pas l'acheter, quoi, c'est tout.
Ouais, par principe, ouais, ça c'est sûr. Ou alors il faut, disons, pour contrebalancer, enfin, moi ce que je fais parfois sur PC, c'est j'attends que le prix du jeu se casse la gueule à mort. Puis quand t'as ton jeu pour 5€, après, même si tu dois mettre 10€ de DLC derrière pour avoir un peu plus de contenu, l'addition finale, elle est raisonnable. Quoi.
Enfin, là, tu parles de Nintendo, hein, ils viennent de baisser Mario Galaxy 2. Hein, c'est,
Ouais.
Ah bon, ils ont baissé Mario Galaxy 2, bah faut que je l'achète.
Ah, il a 25€.
Il va passer en Game Select courant juin, je crois, vers le 15 par là. Mais
le 13 juin.
Déjà, il y a le délai. En plus, ce qui est marrant, c'est qu'avec Nintendo, la Game Select. dire, chez les autres constructeurs, chez Microsoft et Sony, c'est vers les 20 euros, les machins Platinum et tout ça. Chez Nintendo, c'est quand même 25 euros.
Oui, parce que c'est du Platinum, c'est le Platinum ouais. Gold plus Circus Edition. Donc, voilà. C'est pas pareil.
Black Ops 2. Après, il vaut mieux mettre 25 boules pour Mario Galaxy que pour que 20 boules pour n'importe quel jeu bidon. Voilà. Enfin, là, ce qui est particulier, donc, avec le Season Pass de Mario Golf, c'est qu'évidemment, comme c'est une première chez Nintendo, les gens, ils sont pas contents. Donc, je vais aller faire un petit tour des tests qui sont parus chez nos chers confrères incompétents de la presse francophone.
Dans confrères et dans incompétents, il y a aussi pétant. Pardon.
J'ai retrouvé tout seul. Je me suis dit, je vais aller faire un tour chez nos confrères de Gamekult, jeuxvideo.com et Gameblog. Enfin, confrères. Ah bon, hein, vite fait. Et c'est marrant parce que tous les trois, dans leur, parce que maintenant, les trois sites font un truc, une partie plus et moins, comme on fait au dojo depuis, je sais pas combien de temps. Et, c'est marrant parce que dans le, tous les trois, dans les points négatifs, ils recensent, oh là là, il va y avoir des DLC.
Oui, c'est marrant, si parce vous... que c'est pas dans si les vous... points négatifs des autres jeux.
Ouais, voilà, ce que je veux dire, pour les autres jeux, les DLC, ça existe depuis je sais pas combien de temps, on n'a jamais vu d'un point négatif, oh, il y a des DLC, oh, c'est payant, et oh, ça coûte 20 euros, alors que le jeu, il coûte déjà 70 euros, quoi. Voilà, je trouvais ça un petit peu ahurissant. Je trouve ça un peu dommage parce que je trouve que déjà le traitement de l'actualité de Nintendo, enfin, de l'actualité Nintendo par les sites généralistes est quand même un peu pourrave et un peu orienté Nintendo c'est de la merde. Voilà, je trouve ça un petit peu con qu'ils réfléchissent pas 3 minutes à ce qu'ils font alors qu'ils ont plein de lecteurs et que pour l'avenir et la qualité du jeu vidéo, ce serait peut-être bien d'un petit peu faire un effort. Allô.
Voilà, c'était bien. Je vais enchaîner sur le deuxième.
Évidemment que c'était un connard.
Ton petit truc, oui, non, mais voilà, moi je...
Ouais. Non, non, vas-y.
Donc je vais vous parler d'une découverte intéressante. Vous savez, il y a une légende urbaine qui existe depuis de nombreuses années, comme quoi, lors du crack du jeu vidéo de 1983 aux États-Unis, Atari, qui était à ce moment-là au bord de la faillite, à cause du crack du jeu vidéo, aurait enterré des dizaines de milliers de cartouches du jeu E.T. sur Atari 2600, oui, c'est ça. Le jeu qui est considéré comme un des jeux les plus pourris de l'histoire, il n'a été dépassé que quelques années plus tard par Superman 64, qui est quand même un bel échantillon. Voilà, il y a une légende urbaine comme quoi Atari aurait enterré des milliers de cartouches dans le désert du Nevada pour justement qu'on ne les retrouve jamais et pour éviter d'avoir des stocks d'invendus parce que ben, gérer des stocks ça coûte encore de l'argent et quand on est au bord de la faillite c'est vraiment le truc à éviter. Donc vaut mieux payer l'enlisement en gros de tous ces jeux-là plutôt que d'aller essayer de payer des stocks. Et c'est une légende qui était une légende urbaine qui était assez vivace et on n'a jamais su si c'était vrai ou pas qu'ils avaient vraiment enterré des cartouches dans le désert du Nevada. Et il se trouve qu'il y a des gens de chez Microsoft, si je dis pas de bêtises, qui ont payé en fait pour faire des fouilles dans le désert du Nevada pour essayer de retrouver l'endroit, le lieu d'enfouissement en fait de toutes ces cartouches là. Et ben ils l'ont retrouvé. Donc c'était pas une légende urbaine, c'est vrai. Atari a vraiment fait enterrer des milliers de cartouches de E.T. dans le désert du Nevada.
Et ils en ont retrouvé combien là comme ça ?
Pour l'instant,
4.
Non, ils en retrouvent un petit peu plus que ça. Ils sont tombés. Enfin, le truc c'est qu'ils creusent. Enfin, le désert ça bouge tout le temps, donc c'est assez compliqué. Je sais plus exactement, mais ils ont trouvé un truc suffisamment gros pour que ce soit pas du hasard. Voilà. Donc ils savent que c'est a priori, ça a peut-être été enterré à plusieurs emplacements, mais ils savent que en tout cas, il y en a au moins l'endroit où ils ont creusé. Alors, j'ai plus le chiffre en tête en fait.
Et la rumeur disait vraiment qu'il y avait des milliers de cartouches qui avaient été enterrées.
La rumeur disait des dizaines de milliers de cartouches. Pour l'instant, à ma connaissance, ils n'ont pas retrouvé des dizaines de milliers de cartouches. Ils en ont retrouvé suffisamment pour se dire que c'est peut-être là. Maintenant, ouais, je te dis le désert. Le désert, ça bouge tout le temps, donc.
Ouais, ils en ont retrouvé vraiment des dizaines de milliers, mais ils se sont dit que pour les ventes aux enchères, s'ils en retrouvaient des dizaines de milliers, ça allait mal partir au niveau du.
Bah non, parce que si tu veux, au niveau de la demande, E.T. c'est pas un jeu qui est très commun en fait sur Atari 2600.
Ouais, comme c'est un jeu qui est. Il y en a sous blister, hein. Je suis sûr il y a bien des cons qui vont l'acheter. Hein.
Alors oui, il est sous blister, mais il faut voir l'état dans lequel il est parce que le désert, le sable, ça ronge tout. Et donc les quelques cartouches qui sont sorties, les boîtes étaient dans un piteux état parce qu'en réalité t'as tout le poids du sable qui s'accumule dessus et qui écrase les boîtes. Donc de toute façon, voilà. Après oui, une cartouche d'E.T. Sortie du désert du Nevada, c'est une des légendes urbaines du jeu vidéo les plus connues. Ah, forcément, ça fait un petit peu prestige aussi. Mais bon, voilà, E.T. n'est pas du tout un jeu qui est très rare, donc de toute façon,
J'avais jamais entendu parler super de ça intéressant. Avant, en tout cas.
Voilà, mais écoute, il y a le, je pense que vous connaissez tous EVGN, The Angry Video Game Nerd. Et bien, le film EVGN est justement centré sur ce sujet-là.
Donc, ah, le joueur du grenier.
Non, le joueur du grenier américain. Donc le film qui l'a tourné il y a un an et demi, je crois maintenant, et qui est toujours en cours de production, il est centré sur ce sujet-là. Donc ça va faire a priori deux films cette année, puisqu'il y a un petit documentaire qui a été fait par les gens qui l'ont déterré, qui sortiront sur ce sujet-là. Et c'est, ce qui est rigolo, c'est que c'est une histoire vraie. C'était pas forcément évident au départ. Voilà, Méduse, t'avais un deuxième petit truc, me semble-t-il. Je ne parle pas de ta deuxième testicule.
Non. On peut peut-être passer la main à Caliken, qui voulait nous parler d'un petit, oui, pardon, petit machin, oui. Je crois.
Oui, en fait, c'est un petit, pas vraiment très récent, mais avec l'Oculus Rift, qui est cette espèce de petit casque chelou qu'on met sur la tête et qui sortira peut-être à la fin de l'année, si je ne m'abuse, et qui devrait être normalement le premier pas du jeu vidéo dans la réalité virtuelle. Et ça fait un peu parler de lui ces dernières semaines, puisque Facebook a racheté l'Oculus Rift. Et donc, bah, tout simplement, moi, c'est un gros kiff, parce que l'immersion dans le jeu vidéo, c'est vraiment un truc vraiment qui me passionne. Et se retrouver à plonger à l'intérieur d'un jeu, bah, je sais pas, moi perso, c'est un de mes grands kiffs. Donc on peut imaginer tous les gameplay, toutes les possibilités qui vont avoir lieu avec ça. Donc moi, ça m'excite
le
bien
fait que, le fait que ce soit Facebook qui a racheté le Oculus Rift, ça te fait kiffer?
Qu'est-ce qu'ils peuvent faire de terrible, si ce n'est que bon, effectivement, on peut effectivement voir ça de façon un peu négative et se dire que ça risque d'avoir des conséquences. Mais moi, je pense surtout que ça a permis au grand public de s'en rendre compte de l'existence de l'objet. Et je vois pas qu'est-ce qu'ils pourraient faire de mal, honnêtement. Après, de toute façon, comme il s'appelle, Mark Zuckerberg, là, le gars de Facebook. Ouais. Il a dit que de toute façon ça resterait avant tout un accessoire pour le jeu vidéo. Et ensuite, qu'est-ce qu'il pourrait faire de plus avec? Il faut aussi se dire, ça peut être un truc qui peut servir pour plein de trucs, pour le cinéma, pour. Je sais pas, il y a plein de trucs qui pourraient servir.
Je pense pour le cinéma
plutôt. Non, je pense qu'ils vont faire de la VOD.
Voilà, bien sûr.
Non, mais ils vont faire de la VOD et puis des cours en direct, des machins comme ça.
Facebook?
Ouais,
non, Facebook, je pense qu'ils sont en train de se dire
vendre
que Google,
du service, quoi.
Ils sont en train de se dire que les Google Glass, ça va peut-être marcher, qu'il faut qu'ils en fassent aussi, je pense.
Ouais, voilà.
on avait pas
évoqué
le sujet dans un précédent jeu bar.
On avait un petit peu abordé le sujet.
Je me souviens, je sais plus trop, mais possible.
Non, mais voilà, moi je m'imagine des petits FPS sympas, ou même des trucs, il y a des jeux un peu contemplatifs, hein, où tu te retrouves vraiment à l'intérieur, ça peut être une expérience sympa.
Ou du porno.
Ouais, tout à fait, voilà.
Je vous rappelle que si la VHS a gagné contre la Betamax dans les années 80, c'est porno.
Et si le Blu-ray, est là et qu'on n'a pas l'autre.
L'HDDVD,
c'est grâce au porno.
Donc quand l'industrie du porno choisit une techno, les autres peuvent aller se rhabiller.
Mais oui.
Il faudrait que YouPorn rachète l'Oculus alors.
Ah, ça aurait été énorme ça.
Donc il rachète Facebook, ça s'appellerait Facebook.
Non, c'est refusé, ça. C'est refusé.
C'est refusé.
Nous allons marquer une première petite pause musicale. Comme nous fêtons les 25 ans de la Game Boy juste après la pause musicale, on a un petit extrait de Link's Awakening. Ce n'est pas un remix, c'est un morceau original. Donc vous allez avoir la qualité 8 bits originale. Ça va être un petit peu bizarre, d'ailleurs.
Voilà. Péter les watts.
Je vais faire péter les watts. Et donc, c'est un extrait de la Montagne Tartare, si je dis pas de bêtises. J'ai le nom anglais, j'ai pas le nom français en fait. Voilà, et donc on se retrouve dans un tout petit peu moins de 3 minutes. A tout de suite. Thank you. Alors je préviens tout de suite, on a raté le retour. Le retour est foireux. Arrêtez. Vous êtes vraiment pas gérable.
Ah là là.
Alors nous allons parler officiellement du Game Boy ou de la Game Boy, puisqu'on peut dire les deux. Je vous ai bien cassé là-dessus.
Du Game Boy.
Tu fais ce que tu veux.
Les gens qui ont une âme disent là, mais je...
Oh,
je
m'avance peut-être.
Oh là là, c'est bien un truc de post-90 ça de dire la
tout
Game Boy.
Fait.
Allez bim. Ah c'est un post-90. Ah oh, je me barre.
Alors je rappelle que la Game Boy n'est pas post-90. La Game Boy est sortie le 21 avril 1989 au Japon.
Il était.
Le 31 juillet 1989 aux États-Unis et au
il
Canada.
Il était aussi.
Et le 28 septembre 1990, soit plus d'un an après la sortie américaine en Europe. Comme quoi on est toujours bien lotis. C'est triste d'ailleurs parce que le Game Boy n'ayant pas de... Enfin, c'est pas une console pâle au sens propre, donc il n'y a pas particulièrement de spécificité des écrans de télé européens qui nécessitaient de faire un tel retard. Voilà. On a au total 118,69 millions d'exemplaires de Game Boy vendus, en cumulant tous les modèles de Game Boy et de Game Boy Color. Je précise parce que c'est vrai que la Game Boy Color...
C'est
parti. La Game Boy Light, enfin tous ces modèles-là. Alors non, pas les Super Game Boy, c'est pas compté dedans. Les Game Boy Color aussi, je sais pas si vous vous rappelez, c'est le moment où Nintendo s'est dit ah oui, gris c'est un peu triste, on va peut-être faire vert, rouge, jaune, enfin plein de trucs.
Ah oui, parce que les Game Boy
Couleur,
Game Boy en dégradé de vert.
Voilà, tout à
mais
fait.
Mais avec une skin en couleur, et il y a les Game Boy Color.
Et la Game Boy Color qui est venue après, qui était plus fine, qui prenait plus que deux piles. Voilà. Est-ce que vous vous rappelez du prix de lancement de la Game Boy en
789.
Non, c'est mort, c'est pas ça.
Ouais, c'est pas vers les 599.
590 francs, exactement, monsieur.
Balèze.
C'est une affaire pour 590 francs.
Non, j'étais pas loin,
T'étais pas si loin que ça, mais tu avais une Game Boy, tu avais des écouteurs qui étaient très inconfortables. Tu avais une petite boîte pour ranger tes écouteurs et tu avais 4 piles fournies.
Ouh.
Attends, c'est quand même c'est le grand luxe en termes de packaging.
Il n'y avait pas le câble Link aussi avec.
Alors je sais pas parce que j'ai eu moi une Game Boy pas loin de sa sortie. J'ai dû l'avoir au mois de décembre 1990 pour mon Noël.
Ouais mec, dans le Game Boy on avait un câble nous.
Et voilà, des consoles mortales.
Le gars lourd. Et donc, je suis pas sûr parce que je me rappelle pas en avoir eu en étant petit. Maintenant, il est possible qu'il y ait eu un packaging un petit peu après qui est inclus un câble Link.
Bien, ouais. Alors,
je sais pas si vous rendez compte de la révolution du câble Link aussi. C'est quand même un truc. On va échanger des Pokémon pour pouvoir jouer à Tetris à un contre un.
Pour faire de l'écho en église.
Faire de l'écho. Voilà, alors contrairement à la croyance populaire, la Game Boy n'est pas une NES portable. En fait, au moment de la conception du Game Boy par Gunpei Yokoi, d'ailleurs qui est, je crois, Research and Development 1 chez Nintendo, l'équipe qui s'occupait de la NES en fait était occupée à faire la Super NES, et il y avait très peu de communication entre les équipes, donc en réalité le Game Boy a été conçu de manière complètement différente de la NES, surtout qu'ils avaient une contrainte supplémentaire. Il fallait absolument, pour des questions de coût, qu'il y ait qu'une seule puce dans la Game Boy, alors qu'il y en avait 3 ou 4 dans la Famicom pour assurer l'ensemble. Donc il fallait que le CPU et le PPU soient contenus dans la même puce. Ce qui fait qu'en fait, on a une architecture qui est complètement différente et qui n'a vraiment rien à voir avec la NES. Donc c'était vraiment de la croyance populaire.
Ils sont partis from scratch, quoi.
Ils sont partis pas tout à fait from scratch, mais pas loin.
D'ailleurs, parenthèse culturelle, jusqu'à maintenant, Nintendo a toujours fait ses consoles... c'est au niveau hardware et software qui sont toujours tous séparés en fait. Mais à l'époque donc, c'est carrément pour le hardware de la Game Boy, ils ont même pas travaillé avec les équipes qui avaient fait la NES ou la Super NES, quoi, c'est ça.
C'est exactement ça. Ils ont vraiment travaillé de manière quasiment indépendante. Il y a forcément eu un petit peu de communication, mais globalement, c'est pas une NES portable. Ils ont pas porté des composants de la NES miniaturisés mis dans une Game Boy. Non, ils ont vraiment repris un hardware qui est d'ailleurs inédit. C'est-à-dire que c'est un truc qu'on n'a jamais vu depuis, enfin avant et qu'on n'a jamais vu depuis. C'est un processeur qui a été conçu spécialement pour la Game Boy par Sharp.
Ah oui.
C'est quand même... qui bossait beaucoup avec Nintendo d'ailleurs.
Qui bossait énormément avec Nintendo.
Ouais.
On j'ai un petit quiz Game Boy. Est-ce que vous voulez faire un petit quiz?
Oui, un petit quiz.
Est-ce que vous connaissez la différence technique entre la Game Boy et la Game Boy Color?
4.
Non.
Nombre de couleurs.
Entre la Game Boy et la Game Boy Color.
Il y a des couleurs. Non, c'est pas ça.
Bah l'écran déjà.
Oui, alors l'écran, oui, d'accord. Merci, Captain, on applaudit. Merci, Captain Obvious.
Non, c'est moi, c'est Antoine. C'est Fro. Non,
mais... Excuse-moi. Ah, merci, là. Captain Obvious. Merci, Fro. Bah, désolé. Non, vous voyez pas?
Donne un indice.
Le son.
Non, le son est le même. La puce sonore Game Boy Color, enfin, la partie sonore du processeur Game Boy Color est la même que la partie sonore du processeur Game Boy. Ah, il sèche, hein. Ah, dès qu'on parle technique, il n'y a plus personne. Hein. En fait, la Game Boy Color, c'est simplement une Game Boy overclockée. C'est-à-dire que le CPU va deux fois plus vite et il y a deux fois plus de RAM. C'est tout.
Une sorte de Neo Geo, quoi.
C'est. Ouais, on va dire ça comme ça.
C'est, donc, c'est la seule différence au niveau hardware.
Au niveau hardware, alors après, il y a l'écran, évidemment. Mais,
ouais.
Voilà. On passe de 8 kilo-octets de RAM à 16 kilo-octets de RAM. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, la révolution, ce 16 kilo-octets de RAM, c'est juste.
C'est
hallucinant.
C'est complètement gueudin. Est-ce que vous savez.
Mais, du coup, ils s'en sont jamais servis de ça. Je veux dire, elle avait plus de patates, mais pourquoi?
Bah, si, il y a certains jeux Game Boy Color qui étaient. Ouais, tout à fait. Il y a certains jeux Game Boy Color qui étaient rétro-compatibles Game Boy, c'est-à-dire les cartouches noires qui avaient la même forme que la Game Boy. Tu pouvais jouer à tes jeux Game Boy Color sur Game Boy, mais pas tous. Par exemple, Oracle of Season, Oracle of Ages, c'est les cartouches, tu sais, un peu translucides, elles ne fonctionnent que sur Game Boy Color. Donc elles se servent de tout ça.
Okay. Et Pokémon Crystal aussi, je crois.
Oui, il me semble que les premiers Pokémon, c'était pas le cas. Les suivants, ils étaient Game Boy Color rétro-compatibles Game Boy, et les derniers étaient juste Game Boy Color.
D'accord, ouais, je sais pas.
Bon, c'est intéressant. Ça faisait partie des questions du quiz, du coup tu m'as coupé l'herbe sous le pied. C'est pas grave.
Ah.
Que se passe-t-il si l'on maintient le bouton on enfoncé sur un Game Boy Printer?
Il explose.
Bien essayé, mais non.
Il fait tourner le ruban à l'infini.
Non, c'est pas ça non plus.
Non, il imprime un truc genre relâche le bouton, connard.
C'est presque ça. Il imprime effectivement un truc, il imprime un bandeau avec Mario disant hello, en fait.
Ah oui, tout simplement.
Tout simplement. Donc, ça, tu l'as déjà répondu, d'accord, hein, voilà, vous êtes un peu lourd avec ça.
Mais qui suit sa liste?
Oui, non, mais j'essaye. J'ai une question sur le Link's Awakening. On a écouté Link's Awakening et ça fait partie des jeux très marquants de la Game Boy. Dans la version japonaise de la Game Boy, que doit-on rendre à la sirène?
Sa culotte, non?
Son
soutien-gorge.
Son soutien-gorge, exactement. Ouais. Dans la version européenne, on doit lui rendre son collier. Alors sa culotte aurait été énorme, hein, je dois avouer. Déjà, une culotte pour une sirène, va falloir me dire comment elle l'enfile.
Puis et
ensuite, imagine genre, ouais, Link, va me chercher ma culotte. Ok, non, ça, tout va bien. Déjà, le soutien-gorge, c'est...
Je suis certain, au Japon, ils se sont censurés, hein. À la base, ils voulaient foutre une culotte usagée.
Une culotte qui sent le poisson, puisque c'est une sirène. Je suis désolé.
C'était nul, c'est nul.
Ah, mais non, une culotte qui sent la moule, ouais.
C'est juste atroce. Que se passe-t-il lorsque l'on maintient B sur la séquence de crédit du Game Boy Camera?
Séquence de crédit du Game Boy Camera, j'en sais rien, je sais pas non plus. Hein.
On te prend ta gueule et on la colle à la place de la tête de Mario.
Non, c'est pas ça.
Il va falloir que tu le dises, je pense que personne ne va trouver.
Vous aviez pas de Game Boy Camera, mais vous êtes des losers.
Mais ni de Game Boy Printer, ni de Game Boy,
ni de Game Boy Printer. Et bien on voit Miyamoto en train de danser.
C'est sérieux, ça?
C'est très sérieux, une espèce de gif de Miyamoto en train de danser.
faudrait que tu nous sortes.
Je te sortirai le GIF animé. Faudrait que j'arrive à le retrouver. Quel a été le premier jeu vidéo joué dans l'espace?
Tetris.
Bien joué, c'est effectivement Tetris. Il y a un Tetris et un Game Boy qui ont été envoyés dans l'espace pendant 196 jours sur la station Mir en 1993. D'ailleurs, la cartouche et la console ont été vendues en 1996 à un collectionneur privé pour $1,220.
Ah oui, et les piles usagées aussi?
Je suis pas sûr.
Alors ils jouaient sur Sector, et on pouvait jouer sur Sector. Ou...
Je sais pas s'ils jouaient sur Sector dans la station Mir ou s'ils avaient des ravitaillements de piles, j'en sais rien. Si ça se trouve, chaque fois qu'il y avait une nouvelle navette qui arrivait dans la station Mir, les mecs ils disaient ramenez des piles, les gars, ramenez des piles, déconnez pas. La bouffe, la flotte, ok, mais ramenez des piles. Ça on va pas le faire. Attention, celle-là c'est une série de vrais fausses, c'est une question de rapidité. Méduse interdit de dire faux maintenant. Parce que je te connais.
Faux maintenant.
Ouais.
Merde. J'ai perdu. J'ai perdu.
Ils sont lourds, ils sont très très lourds. Tu veux bien quoi?
Pardon, je demande une clope à ma copine, j'avais pas vu.
Un top dans le bar, si tu veux. On fume pas dans les cafés, monsieur. On fume pas dans les cafés,
il faut sortir dehors. C'est sur la terrasse maintenant. vrai ou faux, la Game Boy Camera contient plusieurs images de Pokémon alors que le jeu lui-même n'est sorti que 3 mois après l'accessoire.
Ouais.
C'est vrai? Qu'est-ce qui te fait dire ça, Fro?
C'est
juste que ça a l'air très nul.
C'est trop précis comme question.
Ouais.
C'est trop précis comme question. Effectivement, c'est vrai, mais on ne sait toujours pas pourquoi, en fait. Personne n'a jamais réussi à trouver d'explication du pourquoi il y avait des images de Pokémon qui se trimbalaient dans le Game Boy Camera.
C'est peut-être le mec qui a fait le firmware qui voulait faire une blague.
C'est bien possible.
Je vais inclure un truc pour la postérité.
On va inclure un truc, voilà, pour la postérité. Donc, il y a Miyamoto qui danse. Hein.
Des images
et il y a trois
Pokémon.
Alors, je sais pas s'il y en a trois, je crois qu'il y en a un petit peu plus que ça.
Il s'est déjà tourné le saladier de coq à l'époque, à mon avis.
Vrai ou faux, au moment de sa sortie, la Game Boy Camera était la plus petite caméra numérique du monde.
Bah non, ça c'est faux, ça.
Ouais, je...
Tu dis que c'est faux?
Mais non, c'est Nintendo promet dans un truc.
Quel Iken, tu penses que c'est faux?
Non, je pense que c'est faux.
Eh bien non, c'est vrai, même si définition était toute pourrie, c'était la plus petite caméra numérique du monde.
C'était quoi la résolution?
La même résolution que la Game Boy, l'écran de la Game Boy, c'est-à-dire 160 par 144.
Donc en natif, quoi, pas une résolution avec un upscale pourri.
Je pense que c'était la résolution native. J'ai pas vérifié, mais il me semble que c'était la résolution native. T'imagines upscaler 160 pixels par 144?
Ah, tu vides des piles hein, sur la Game Boy.
Ouais, déjà, mais je sais pas si tu vois la gueule de l'image, quoi. Si t'imagines, les mecs, ils ont fait la Game Boy Camera, ils ont fait 1080p, ils te l'affichent sur une Game Boy, quoi. À l'image, elle va être sympa.
Ouais,
hein.
C'est ça, quoi. Ouais.
Vrai ou faux, il existe une Game Boy officielle disposant de rétroéclairage de série.
Vrai, oui. C'est la Game Boy Light.
Bien, effectivement, c'est la Game Boy Light qui est sortie uniquement au Japon.
Ouais.
On en apprend tous les jours.
Nous, on avait les accessoires de chez Big Ben tout pourris qu'on payait une blinde et qui marchaient.
Oui, la grosse loupe horrible voilà, là qui permettait de. Attends, t'as pas vu il y avait le modèle avec la grosse loupe, les haut-parleurs stéréo, c'est-à-dire les deux haut-parleurs déportés.
Ah oui, et un fake stick rose.
Ouais, voilà, fake stick. Ouais. Ça, c'était bon ça.
Ça, c'était bon. Ouais, non, mais surtout que déjà, la Game Boy c'était une console de poche, fallait le dire vite. Mais alors là, quand tu rajoutais ça, fallait un carton pour la transporter, c'était quand même pas top. Bref. Vrai ou faux, la seule chose capable de détruire un Nokia 3210, c'est une Game Boy.
Faux, rien ne peut détruire un Nokia 3210.
T'as déjà...
Je sais... Rien, non, c'est faux, c'est obligatoirement faux.
Si dit, la Game Boy est super solide. Je sais pas si vous connaissez l'anecdote de la Game Boy, la Panzer Game Boy, une Game Boy qui avait résisté à la guerre de l'Irak, un truc comme ça. Donc,
C'est une Game Boy qui est exposée au Nintendo World, je crois, de New York, et qui effectivement est une Game Boy qui a fait la guerre de golf. Qui a
C'était pas notre guerre.
C'est ça.
C'était pas cette guerre.
C'était vraiment une sale guerre. Hein.
Ouais, qui a été pris dans une explosion de je sais pas quoi, qui était complètement brûlée à l'extérieur, mais qui continue de fonctionner. C'est vrai que c'est un peu indestructible.
Allez.
Donc, on n'a pas essayé Nokia 3210 contre Game Boy, simplement parce que j'ai pas de Nokia 3210.
Moi, le seul moyen que j'ai trouvé pour que Nokia 3210 il soit hors de chez moi, c'est de le perdre. J'ai tout essayé avec un lave-baignoire, ça n'a pas marché. Les toilettes, ça n'a pas marché.
C'est vrai que c'est quand même...
paumé, ça a marché.
Les objets indestructibles des années 90.
Ouais. Des années 90, ouais.
Vrai ou faux, certains jeux Game Boy étaient conçus pour avoir des couleurs et des fonds personnalisés quand ils étaient joués sur Game Boy, sur Super Game Boy.
Vrai.
Vrai. Ouais, vrai.
Est-ce que vous avez des exemples?
Non.
Non.
Il y a pas pas Tetris, non.
Tetris, non.
Non.
Tetris, c'était un des premiers jeux sortis.
Les Pokémon, non, ils avaient pas un fond.
Alors, les Pokémon, effectivement, un fond. Argent le tout et premier or, jeu, hein. Voilà, le tout premier jeu à exploiter ça, c'était Metroid 2, Return of Samus, qui avait un fond spécial et qui avait une colorisation minimale quand il était joué sur Super Game Boy. Si vous voulez retrouver ça sur les boîtes, il y a écrit quelque part à l'arrière de la jaquette Game Boy, enfin de la boîte en carton Game Boy, il y a écrit image améliorée sur Game Boy, sur Super Game Boy.
Waouh.
Ça c'est
rêve.
Classe. Je vends du rêve. Surtout si tu as encore tes boîtes en carton de Game Boy toutes pourries.
Ouais. Non mais à l'époque c'était important parce que enfin généralement quand on finissait un jeu sur console 8 ou 16 bits, tout ce qu'on avait c'était un générique machin, un beau artwork en plein écran, super résolution 240p.
Ah donc, oui, ça t'avais pas de season pass là.
Juste en mettant ton jeu dans ton Super Game Boy où t'avais juste ton cadre qui était différent, c'était déjà un plus assez notable, je crois.
Puisque t'es parti, Méduse, est-ce que tu peux nous raconter ton souvenir de Game Boy, meilleur souvenir de Game Boy ou ton souvenir de Game Boy, n'importe lequel.
Alors j'en ai deux. Bon, ça remonte forcément à une époque où on était tout petit, sauf pour Kaliken où il était pas né.
On peut faire le test, mais je suis peut-être pas forcément le plus jeune. Hein.
T'es dans quelle année?
84. Ouais, bah si, t'es pas le plus jeune.
Moi, je rentre. T'es égalité avec Mortal.
Je t'emmerde.
Tiens dans ta gueule. Non, deux souvenirs, c'est. Bah, moi, j'avais pas de Game Boy, donc je squattais le Game Boy de gens de mon quartier. Donc, j'ai fini Mario Land comme ça. J'ai toujours rêvé d'avoir un Game Boy juste pour Link's Awakening, parce qu'à vrai dire c'est le seul jeu qui m'intéressait. Le reste strictement rien à foutre sur Game Boy. Et finalement, bah, à l'heure d'aujourd'hui là, hop, j'ai toujours pas fait Link's Awakening, même si j'ai joué un petit peu. Et voilà. Sinon, je me souviens avoir fait le Astérix. Il y avait un Astérix machin truc que j'avais fait à fond. Et alors, je crois que c'est tout. Ah oui, j'avais joué à Double Dragon. Double Dragon, c'était sympa. Mais j'ai pas de souvenir particulier de la console dans la mesure où j'en avais pas.
D'accord.
Voilà.
Fro, est-ce que toi, t'as une anecdote croustillante ou pas?
Non, pas croustillante, juste Tetris. J'ai dû passer la moitié de ma vie sur Tetris. Je pense.
Tu as donc passé 8 ans de ta vie sur Tetris.
8 ans de ma vie sur Tetris. Et je crois que j'ai encore des restes, à mon avis.
Donc, genre, si là maintenant il y a un mec qui arrive avec un câble Link, un Game Boy, un Tetris, c'est parti quoi.
Ah bah oui, non mais.
It's on like Donkey Kong quoi.
J'ai foutu pas mal de taux là, à pas mal de monde là.
D'accord, bah écoute, j'arrive, je prends la voiture.
Tu prends la voiture, tu peux venir.
C'est parti.
Je t'attends. Je suis
en slip. Kaliken, souvenir Game Boy.
Hein? La question c'est quoi? C'est si je suis en slip aussi, c'est ça?
Ouais, non, mais ça, on n'en doute pas un instant, ça.
Nous ne doutons pas du fait que tu sois en slip. Nous voulons savoir si tu as un souvenir marquant de Game Boy.
Ouais, mais il est un peu pourrave, donc je sais pas si je
vous en parle. Mais vas-y, c'est pas grave. Oui.
Alors, j'étais jeune. Hein. En fait, mon premier jeu c'était World Cup, qui était un jeu de foot.
Oh, il était trop bien celui-là.
Il était vachement bien. On pouvait faire des tirs à Olivier Tom et tout. Il était vraiment bien.
Il est vraiment bien.
Et c'est le mec qui a fait Double Dragon d'ailleurs qui l'a fait celui-là. C'est
Rival
du coup. Et en fait, quand le jeu a démarré, moi c'était un de mes premiers jeux. En fait, il y avait pas vraiment de notion de perspective dans le jeu. Et les trois mecs qui passent la balle, qui font l'engagement, je croyais que c'était un totem. Je croyais qu'ils étaient l'un par dessus de l'autre. Donc je crois que c'était un jeu de cow-boy. Je comprenais pas. Voilà, c'est tout.
C'est excellent parce que vraiment c'est
vrai,
non mais
ah, quand même, ouais.
Moi j'avais World Cup sur NES et c'est clair que. Je veux dire, pour moi, en jeu de foot de l'histoire de jeux vidéo, ce qu'il faut retenir, c'est World Cup sur NES, le premier FIFA sur Mega Drive, et sur 64, en désagréant les faux. Ça, ça en a pris. C'est les trois seuls trucs qu'il faut retenir de l'histoire du jeu du foot sur console, et sur PC, le reste, vous pouvez tout jeter. Ça, c'est bon. Bravo!
Ah bah oui, je vais raconter deux petits souvenirs très rigolos. Enfin, très rigolos. Pas forcément très rigolos, mais deux trucs marquants. D'abord, c'est Super Mario Land 2. Je pense que tout le monde se souvient de Super Mario Land 2. Moi, c'est un jeu qui m'a beaucoup marqué parce que c'est le premier jeu que je me rappelle avoir fini. Avec très grande difficulté. J'ai dû passer je sais pas combien d'heures sur le stage de la Lune parce que j'arrivais pas à battre le boss qui était sur le stage de la Lune.
Land 2, c'était celui avec Wario?
C'était celui avec Wario, ouais. Et je me souviens que quand j'ai battu Wario, j'étais tellement content qu'en fait j'ai jeté les bras en l'air et la Game Boy est partie avec.
Ça c'est très bon ça.
Et heureusement je n'ai rien cassé, j'ai pas cassé le cache-pile, j'ai rien du tout. Par contre, bon voilà quoi, je me suis fait un peu peur, j'avais vraiment peur de l'avoir abîmé.
Et, avec âge,
et je me demande si le chat s'est pas pris sur la gueule. Je sais pas parce que ça devait être en 1991 ou 92, donc je devais avoir 6 ou 7 ans, 8 ans peut-être, un truc comme ça. La première console que j'ai eue, c'est la Game Boy, je l'ai eue l'année de sa sortie en France. Noël 90 ou voilà.
Donc la NES en fait, ou alors tu l'as eue après?
La NES, je l'ai eue après.
Après quand?
Après un an ou deux ans après.
Ah oui.
Et la Super NES, je l'ai eu encore un an après, donc j'ai vraiment été décalé de ce point de vue-là.
T'as failli perdre le peu de crédit qui restait dans mon... Ça de la chance.
Ouais, je sais pas si c'est pas mon frangin qui avait eu la NES l'année d'après ou un truc comme ça. Enfin, je sais plus exactement comment c'était foutu, mais je sais que j'avais les deux à la maison. Voilà. Et mon deuxième souvenir, c'est j'étais en vacances, je sais plus où, à la plage ou je sais pas quoi. À la mer quoi, je jouais à la Game Boy en fait sur le canapé machin, et ma mère m'a dit va jouer dehors, arrête, pose ça et va jouer dehors. En fait, j'ai juste pris la Game Boy et je suis allé dehors, donc elle pouvait pas me dire que je jouais pas dehors.
C'est bien.
Et j'avais fini tennis comme ça, tennis sur Game Boy.
T'étais déjà foutu à 8 ans quoi.
Non, mais ta mère te dit va jouer dehors, tu prends ta Game Boy et tu vas dehors. C'est vrai qu'effectivement c'est quand même pas top quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a des jeux qui vous ont vraiment marqué? Donc on a déjà évoqué Tetris. Bon, Tetris, je pense que c'est le classique. Moi, c'est... de la machine. Super Mario Land, World Cup, Toad. Je me souviens plus du tout. Mais vas-y, Fro, t'as un ou deux jeux très marquants.
Les jeux méga durs en fait. Il y a Battletoads et Tortue Ninja.
Il y avait un Tortue Ninja sur Game Boy. C'était un portage de la version NES ou...
Ouais, un truc comme ça. Enfin, c'est un truc en 2D.
Il y avait un beat'em all aussi, Tortue Ninja.
Voilà, c'était un beat'em all. Et surtout, mais hyper dur. Et j'ai jamais terminé ces deux jeux-là. C'est impossible à terminer, quoi.
D'accord. Medus, t'avais des jeux marquants sur Game Boy? Enfin, tu nous les as dit, parce que finalement, t'en as jamais eu de Game Boy. Même pas de Game Boy Color?
Non, par contre, quand j'ai eu la Game Boy Advance, j'ai acheté Oracle of Seasons. J'ai toujours pas fini parce que à chaque fois j'ai bloqué au même endroit, j'ai recommencé deux fois et je suis toujours bloqué au même endroit. Donc je pense que handicapé, il va falloir que je...
C'est un peu handicapé de la...
Je sais pas, ouais. Je finis toujours les jeux sans solution ni rien, mais là j'ai toujours bloqué au même endroit. Voilà, mais c'est le seul jeu finalement Game Boy Color que j'avais, enfin que j'ai toujours.
Kaliken, t'as un souvenir de... Enfin, t'as un jeu Game Boy vraiment marquant que tu as possédé ou que tu considères comme étant vraiment un truc...
Faut enlever le mute.
J'ai parlé de World Cup tout à l'heure, donc là, dans la catégorie des jeux infinissables, il y avait Gremlins 2.
Ah ouais, putain,
je m'en souviens. Tout le monde l'avait, celui-là. C'est horrible.
Parce que les sauts, c'était au pixel près, et je l'ai paumé, et je l'ai racheté il y a pas très longtemps, en me disant, ah, c'est un jeu que j'y arrivais pas quand j'étais gosse, donc c'est normal. J'ai toujours pas réussi à le finir, en fait. C'est un truc de fou, quoi.
C'est le jeu, ça fait 25 ans qu'il te met une fessée, quoi.
Surtout qu'il y a 4 niveaux, c'est tout. Il y a 4 niveaux.
Ouais, mais c'est l'astuce des jeux des années 80. Tu fais 4 niveaux, tu fais pas beaucoup de niveaux parce que les cartouches sont toutes petites, mais tu les fais super dur, comme ça, t'en as pour ton argent.
Et le boss de fin, même les mecs sur YouTube qui maîtrisent bien le jeu, ils ont du mal, quoi. C'est hallucinant.
Mais je me souviens que il y a plein de gens qui l'avaient, ce jeu-là, Gremlins 2. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que c'est pas un film pour enfants particulièrement. Donc,
non, et puis le jeu était pas vraiment génial non plus, mais c'était un défi, quoi.
Ouais. Est-ce que vous considérez aujourd'hui qu'il y a des indispensables de la ludothèque Game Boy qui valent le coup d'être rachetés, soit sous forme Virtual Console, soit en vraie cartouche?
Zelda.bar.
Bon, mais du coup, on a compris que c'était Zelda.
Ouais,
Zelda.
Non, effectivement,
je peux même pas imaginer à quel point j'ai regretté de pas avoir acheté Link's Awakening quand il était trouvable sur le marché.
Link's Awakening, Link's Awakening DX est très difficile à trouver d'ailleurs.
Il est encore trouvable vers 2001 et jamais après trop tard.
Link's Awakening, il est ressorti sur Virtual Console, j'en suis certain. Les Rocket of Season et Edges, je suis pas certain.
Si, ils sont sortis tous les deux.
Donc tous les Zelda de la Game Boy sont super accessibles normalement. Enfin, parce que c'est vrai que se diriger vers le marché de l'occasion, Link's Awakening DX, la cote, elle doit être à peu près à 30-35 euros maintenant, donc ça fait un peu chéro quand même. Fro, est-ce que t'as un jeu qui est vraiment un indispensable?
Bah, Tetris.
Oui, ben, d'accord. Un autre, éventuellement.
Peut-être Metal Gear Solid. Enfin, c'est Metal Gear, Babel, je sais pas trop quoi, là. Pour ceux qui aiment bien vraiment la série, il est vraiment, vraiment bien sur Game Boy. Game Boy Color, il était.
D'accord. Oula, je savais pas du tout qu'il était sorti sur Game Boy Color.
Il est vraiment cool.
Et Metroid, c'est bien sur Game Boy ?
Metroid aussi, ils sont sympas.
Metroid 2 sur Game Boy, il est excellent. Et c'est d'ailleurs dommage, c'est un des seuls épisodes de la saga Metroid qui a jamais eu de remake. Sous quelque forme que ce soit, je suis même pas sûr, je crois qu'il est même pas ressorti en Virtual Console.
Et alors c'est là, un.
C'est un excellent épisode. Le seul problème, c'est que quand on y joue sur la Game Boy originale, Metroid, l'original sur NES, avait énormément de couleurs, en fait, qui permettaient de te repérer. C'est-à-dire, t'avais les formes des murs et les couleurs permettaient de te repérer. T'as les zones violettes, des zones rouges, des zones machin. Là, t'as que on va dire, le motif des décors qui permettent de te repérer. C'est pas évident du tout, du tout. Et là, on y gagne vraiment à y jouer sur Super Game Boy, par contre.
Oh putain, j'ai Mario Golf, moi. J'ai Mario Golf sur Game Boy Color.
Ah, mais oui,
sérieux
même pas.
Merde.
Et il y a Mario Tennis aussi sur Game Boy Color, non ?
Il y a Tennis.
Tennis, ah oui, pas Mario. Ah oui,
Mario
Tennis, c'était sur GBA, alors. Ouais.
Mais ce qui est un peu dommage, d'ailleurs, avec le Game Boy, enfin, je sais pas si vous en pensez. Alors, attends, justement, Kaliken, si t'as un ou deux jeux assez remarquables.
Bah, ouais, il y avait la série des Mario Land aussi, qui était ouf. Ouais, parce que les trois Mario premiers, ils étaient très différents, Mario Land 2 et puis Wario Land, et ils étaient tous géniaux, vraiment.
Il y a aussi la série des Wario Land, puisque...
Ouais, je les ai pas testés, ceux-là.
Alors, après Super Mario Land... En fait, c'est des jeux qui sont vraiment dans la veine de Super Mario Land 3, qui était Wario Land, Super Mario Land 3. Et après, il y a eu Wario Land 2, Wario Land 3, et Wario Land 4. Vous avez aimé Wario Land, le premier...
Mystic Quest, sinon...
Ah, le premier Secret of Mana, en fait.
Ouais.
J'ai pas testé, mais il faudra que je le fasse, celui-là.
Et Metal Gear, c'est sur Game Boy Color, et c'est Ghost Babel. Il est sorti en 2000,
d'accord. C'est une
alors,
bonne information.
Info, Metroid 2 Game Boy est ressorti sur console virtuelle 3DS en 2011 partout dans le monde.
D'accord, ça je savais pas du tout. Bah, c'est une bonne nouvelle parce que c'est vraiment
selon
un excellent
Wikipédia,
jeu. Merci Wikipédia.
Le Mystic Quest, il était ressorti sur GBA sous le nom de Sword of Mana. Il était pas mal.
Ouais.
C'était.
Ah, c'était vraiment bon ça. Par contre, ils doivent valoir une blinde maintenant.
Ouais, je pense, ouais.
Effectivement, oui, surtout que la série des manas, c'est. Ça, c'est bien. Enfin bon.
Ouais, on est d'accord.
Moi, je voudrais juste avoir votre avis sur un tout petit truc avant d'enchaîner, pour parler d'autres choses. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est vrai que la ludothèque de la Game Boy, il y a quand même assez peu de jeux inédits. Je veux dire, il y a énormément de portages de jeunesse. Est-ce que vous, ça vous a jamais frappé, ça, de voir qu'il y avait à ce point-là des portages de jeunesse? Vous avez DuckTales, il est sur NES, il est sur Game Boy. Tout à l'heure, on parlait de War Cup. Effectivement, il y a une version NES, il y a une version Game Boy, et ainsi de suite. Voilà, ça vous a gêné à l'époque? Ça vous paraît bizarre maintenant quand vous regardez la ludothèque complète? Ou
moi,
finalement, pas plus que ça?
J'étais gamin, donc je regardais pas vraiment ce truc-là, quoi. Ce que je voulais, c'était juste pouvoir jouer dans mon lit, peinard, ou sur le balcon, quoi, sans faire chier ma mère dans le salon, en fait. Mais c'est vrai que j'avais souvent des doubles de jeux, en fait. Moi, j'ai eu DuckTales sur NES, j'ai eu sur Game Boy, j'ai eu pas mal de trucs.
C'était pas exactement les mêmes.
Ouais, c'est
les niveaux étaient les mêmes ou quoi?
Les jeux étaient pas tout à fait pareils. Hein.
C'était pas tout à fait pareil, mais quand t'es gamin, en fait, tu fais pas attention, tu joues ton jeu, puis voilà.
Non, mais même maintenant, il y a plein de séries qui sont à la fois sur console portable et console de salon ou PC. Bon,
et Megaman 2.
C'est le jeu différent.
Megaman 3 aussi.
Il y a tous les Megaman.
Tous les Megaman
sont sur Game Boy.
Ah, il y a Resident Evil Gaiden aussi qui était bien.
Non. C'était un peu bizarre comme jeu. Alors, je profite qu'on a Kaliken, puisque c'est l'organisateur, je rappelle, organisateurs de DS in Paris. Il paraît que tu as fait un Game Boy in Paris. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé, pourquoi vous avez fait ça?
Bah alors, c'était jeudi dernier, donc c'était
de l'actualité fraîche.
T'as vu. C'était pour les 25 ans de la Game Boy, donc on a décidé de faire un truc un peu pour fêter l'anniversaire de la Game Boy. Et du coup, donc on a dit aux gens qui avaient une Game Boy ou une Game Boy Color ou même une Game Boy Advance, mais de ramener leur console, leur jeu, et on s'est fait un petit trip nostalgique. Et on s'est bien éclaté parce qu'au final, il y avait pratiquement toutes les versions des Game Boy qui étaient là, y compris la Game Boy Light, qui est la version donc, qui est sortie que au Japon. Et il y a des gens qui sont éclatés avec les câbles Link, avec tous les vieux jeux de l'époque, et c'était bien sympa.
Il y a belle photo d'ailleurs sur le site.
Tout à fait.
Oui, il faudrait aller voir ça, parce que c'est vrai que ce qui est rigolo, c'est d'avoir plein de modèles de Game Boy différentes, et ce qui est rigolo surtout, c'est que le câble Link, c'est pas un truc qu'on a plus l'habitude maintenant.
C'est clair.
Ça devait être assez marrant de faire des deux dans tous les sens.
Mais 5 ans après, ça marche toujours, c'est ça qui est bien.
Ouais, c'est ça qui est surtout impressionnant, je trouve.
Alors, le seul truc qui marchait plus, c'est les piles à lithium de certains jeux, les sauvegardes. Moi, j'ai découvert que ma version de Pokémon Bleu, ben voilà, elle était décédée.
Tu pleurais.
J'ai versé ma petite larme, voilà.
Voilà, c'était effectivement ce genre de truc qui est quand même assez rigolo à faire. On va se faire une seconde petite pause musicale avant de passer à la dernière partie de l'émission. Je vous propose d'écouter la version originale, hein, on ne fait pas dans le remix ce soir, de la musique, d'une musique extraite de Metroid 2. Qui est en fait la musique d'ambiance de la surface de SR388, la planète qu'on explore dans Metroid 2. Voilà, ça dure un tout petit peu plus de 3 minutes, on se retrouve tout de suite après.
Nous sommes de retour pour la dernière partie du dojo.
C'est agaçant. Hein.
Non, ça va. Et donc, dans cette dernière partie d'émission, bien, nous allons parler de DS in Paris et DS in Nantes, de deux organisations qui se réunissent régulièrement avec plein de consoles Nintendo portables. J'avais envie de faire ce sujet parce que il y a moi personnellement quand je joue aux consoles portables, c'est beaucoup en solo et pour trouver des gens avec qui jouer sur certains jeux, putain ça m'a manqué. Chers auditeurs, vu qu'il existe des gens qui font ça très bien depuis de nombreuses années et qu'on a parmi nous Fro et Kaliken, qui font ça respectivement à Nantes et à Paris, ben je me suis dit bon ben on va inviter ces gens-là, on va voir comment ce qu'ils font, comment ça se passe. Et donc, on va commencer dans l'ordre chronologique. Kaliken, je ne sais pas depuis quand est-ce que tu as introduit DS in Paris. Si tu peux nous raconter un petit peu.
Alors déjà, moi, j'ai introduit personne. Hein. Attention, restons courtois. Alors, les DS in Paris ont été créés en 2006. Et elles ont été créées au départ par trois personnes qui sont Remouk de bashfr.org, Netsabes de Naufrag et oui. Maya de qui fait Sexactu maintenant. Et donc en fait quelques années après ils ont laissé le bébé à d'autres personnes, donc moi et deux autres amis. Et du coup bah c'est ouais, ça fait depuis 2006 qu'on réunit des gens, donc on va bientôt fêter nos 8 ans.
Vous avez fait combien de DS in Paris environ en 8 ans?
Écoute, là, on s'approche tout doucement de la 400e.
Ouh, ouh, vache.
Voilà.
Il y a un événement spécial à chaque fois que... Il y a un événement spécial à chaque fois que vous faites la 100e, la 200e, la 300e, vous avez essayé de faire un truc un peu...
On essaye de faire
un peu particulier.
Faire une petite fête. Je sais que la 300e, on l'avait fait au dernier bar avant la fin du monde et c'était tombé en même temps que la sortie de Luigi's Mansion 2. Donc on avait vu avec Nintendo pour qu'ils le fassent et tester en exclusivité. On avait organisé un petit tournoi. Donc à chaque fois, ça, on marque le coup.
Ça c'est bien. Surtout si vous avez pu avoir Nintendo sur le machin, j'imagine que c'est cool, quoi.
Bah, c'est cool parce que, bah, d'une part, ils sont plutôt sympas, et puis on leur fait un peu de la promo aussi, donc et puis ça permet aux gens de découvrir les jeux un peu en exclusivité. Des fois, il y a des petits lots à gagner. À l'époque, c'était pour la 300e, c'était Luigi's Mansion 2, tout simplement, qu'on pouvait gagner. Il y a eu des tournois, on a quand même offert des super lots. Je crois qu'on avait fait un tournoi Mario Kart avec la 3DS Collector Zelda. Parfois, pour certains tournois, on a quand même des beaux cadeaux. Donc, c'est vrai qu'ils sont plutôt cool là-dessus.
Et du coup, la relation avec Nintendo, ça se passe bien. Enfin, je veux dire, tu nous as raconté effectivement. Alors, pour la 300e, ils vous ont filé des lots. Ils ont un petit peu poussé derrière, mais de manière générale, ils vous ont toujours soutenu ou c'est venu un peu plus tard. Ils vous aident à faire un peu de promo ou pas du tout. Ils s'en foutent. Enfin, ils participent quand vous leur demandez gentiment, mais c'est tout.
Bon, la plupart du temps, on leur demande gentiment, ils participent, mais c'est vrai qu'ils sont pas vraiment à nous suivre constamment. La seule fois vraiment où, enfin, il y a quelques fois où ils sont quand même venus nous voir parce qu'ils ont vu que ça poussait, qu'il y avait des gros événements. Mais sinon, la plupart du temps, c'est nous qui leur rappelons, ben, tenez, on va faire la 300e DS in Paris, où on va fêter nos 5 ans, où on va promouvoir tel jeu, etc. Et puis généralement, ils répondent présent. Le gros événement où eux-mêmes nous avaient contactés, je pense que c'était pour la sortie de la 3DS, qui coïncidait avec la 200e DS in Paris, et là, ça avait été vraiment la grosse fête.
Ah,
quoi.
Bah oui. Je crois que Nintendo Europe a calqué, vous a attendu pour sortir la 3DS.
C'est ça.
Ça tombe tout juste.
Ouais, voilà, c'est Nintendo Japan. D'ailleurs, on a eu Satoru Iwata sur le sujet. Il nous a envoyé un petit tweet pour nous dire, bon, les gars, pour la sortie de la 3DS, il va falloir qu'on retarde de 3 mois parce qu'on attend la 200e de DS in Paris. C'est quand même important.
C'est ça, c'est exactement ça.
Et donc, en se projetant dans le futur, on va pouvoir à peu près déterminer quand sortira la prochaine console portable de Nintendo.
Voilà, c'est pour la 400e. C'est pour la 400e.
Ouais, c'est bientôt en fait, alors.
Bah ouais, dépêchez-vous. Ah, là, on est à la 360e. Cool. Que je dise pas de bêtises, la prochaine qui aura lieu jeudi, ça sera la 357e, un truc comme ça.
Ouh, et avec ce qui vient de tomber aujourd'hui sur le, bah, pour ceux qui ont suivi un petit peu l'actu, Nintendo, chaque année, ils font un site pour, en prévision de l'E3, qui s'appelle simplement e3.nintendo.com. Figurez-vous que dans le code source, dans la description des mots-clés, dans le code HTML, il est écrit, New Nintendo System, cette année.
Ouais, mais attends, non, en fait, j'ai fait
une blague.
J'ai fait une news aussi, en fait, j'ai regardé dans le cache Google. Et c'est un vieux site qui était hébergé pour l'E3 2012. Donc voilà, je casse un peu tes rêves.
Arrête de casser nos espoirs et nos rêves comme ça.
Je casse tes rêves, voilà.
Moi, je voulais avoir une
la
nouvelle...
La Wii HD, alors.
Imagine.
La vraie Wii HD.
La vraie Wii HD. Et donc, ouais, pour retour sur le machin, bah, Fro, si tu nous racontes un peu la genèse, et après, je propose que vous nous parliez l'un et l'autre de, grosso modo, concrètement, comment ça se passe un DS in Machin.
La genèse, bah, j'ai piqué le concept à DS in Paris, tout simplement.
Bah voilà.
À le pleutre.
Voilà. De mémoire, j'ai fait ça bien. J'ai envoyé un mail et tout. J'ai demandé si je pouvais copier le truc. Et ils m'ont gentiment répondu en me disant que ouais.
Direct.
Voilà. Avec un gros doigt, comme ça. Ah, bande de bâtards. Et, donc, du coup, ils m'ont dit, OK, il n'y a pas de souci. Et, moi, j'ai commencé ça exactement, parce que j'ai la date exacte, le 15 mars 2012. Donc c'est assez récent. Et là, on a fêté nos 2 ans il n'y a pas si longtemps que ça, et on est à la saison 3.
Le 15 mars 2014 à peu près.
Non, parce
me
que...
Je me permets de faire Captain Obvious aussi.
Super bien.
Presque. Parce qu'on fait ça au début c'était tous les mois, après c'était toutes les 2 semaines. Non, toutes les semaines et après toutes les 2 semaines. En fonction du monde qu'il y avait.
Non, au final, t'as adopté le même format que le Dojoba, ouais, toutes les 2 semaines, qui est le meilleur format du monde.
C'est le meilleur format. Voilà.
Vous faites ça quel jour généralement?
Le jeudi.
Et à Paris aussi?
Non, bah non,
ouais,
non,
ouais, c'est le jeudi soir aussi.
Ah. Le jeudi, ah oui. Ouais. Mais c'est pour ça qu'on a mis le Dojoba le mardi, parce que le jeudi, ben voilà. Voilà, voilà.
Qu'est-ce qu'on est fort et intelligent quand même.
Bon, c'est beau.
Ça fait plaisir.
Généralement, comment ça se passe? Vous décidez qu'il y a l'un et l'autre dans vos villes respectives. Comment ça se passe? Vous décidez de faire un... Est-ce que ça se passe au niveau... Est-ce que vous prévenez les gens? Comment est-ce que... voilà. À quelle heure c'est? Ça dure combien de temps? Est-ce qu'il y a un droit d'entrée? Est-ce que chacun doit porter sa boisson? Racontez-nous tout. Concrètement, comment ça se déroule?
Vas-y.
Alors, ok. Ben nous en fait c'est simple, on généralement au tout début c'était vraiment sur le principe des flash mobs, donc c'était on prévient les gens un ou deux jours avant et on se donne rendez-vous dans un nouveau lieu. Mais ça c'était vraiment au tout début des DS in Paris. Et à l'époque ça se faisait vraiment en extérieur. Nous le truc c'est que à Paris on jouit pas forcément d'un climat tropical, donc
si je peux me permettre, à oui. Nantes non plus.
Ah oui. Bah, alors là
je ne
le contraire.
Je sur ma position géographique personnelle, je vous emmerde.
DS in Bruxelles, je pense qu'il y a moyen que ce soit sympa aussi hein.
Tout
je
à
crois
fait.
Que ça existait.
Et tout ça pour dire que bon, l'hiver il faut qu'on trouve un endroit pour s'abriter, et en fait on a trouvé quelques bars, et puis là depuis quelques années on en a trouvé un qui nous laisse carrément un étage à nous tout seuls. Et le deal en fait c'est juste qu'on sensibilise les gens qui viennent, prenez une boisson, prenez si possible un petit truc à manger, mais prenez au moins un coca ou une bière pour que au moins le bar soit gagnant et que nous on a rien à leur devoir, c'est-à-dire qu'il y a même pas de caution et tout, ils nous laissent cet espace et nous on dit aux gens ben consommez un minimum et sinon c'est complètement gratuit.
D'accord, donc il y a pas de en fait le deal avec le tenancier du bar c'est on ramène plein de clients potentiels qui s'engagent à gentiment consommer un petit peu pour faire tourner la boutique, voilà. Quoi, et ils vous laissent squatter tout le lieu gratuitement, voilà. Sans vous rien vous demander.
Et qui plus est, en plus, c'est en plein cœur de Paris, vu que c'est au Halles. Et donc, la situation est vraiment sympa, quoi. C'est accessible,
ouais, c'est
en métro. Et donc, voilà. Et le bar en lui-même, bon, c'est un pub irlandais, mais c'est plutôt sympa. C'est vrai que maintenant, bon, quand c'est l'été, dès que les beaux jours arrivent, on est quand même content de jouer en extérieur, de faire des petits pique-niques. Et là aussi, on s'est installé. Le jeudi soir, quand on en fait, c'est plutôt vers le Louvre. Et le samedi après-midi, on en fait dans les jardins de Bercy, en face de la cinémathèque.
Ouais, c'est des boucans, quoi. C'est cool, ça.
Ouais, voilà. Mais il arrive aussi que des fois, on change de lieu sur un coup de tête, ou aussi il y a des événements un peu spéciaux, où par exemple, tu vas retrouver la DS in Paris à Japan Expo, la DS in Paris au Paris Game Week, etc.
Mais ça, c'est presque de l'événementiel. C'est exceptionnel,
ouais,
quand même.
C'est plus exceptionnel, ouais.
Et toi, Fro, c'est le même genre? Vous avez un lieu attitré? Ou ouais. C'est dehors, à l'arrache?
Non, non, là, je suis organisé pour une fois. Vu que je traîne pas mal dans les bars, j'ai pu en tester un bon paquet. Et du coup, c'est exactement la même chose. En fait, on a un étage complet qui est pas réservé. Parce qu'en fait, je veux pas le réserver non plus. Je veux pas payer, tout simplement. Et je veux pas que ce soit payant. Du coup on arrive dans le bar, on se pose à l'étage, on consomme un truc, pareil on sensibilise en disant ils nous prêtent l'étage, donc prenez un truc à boire, donc ça il n'y a pas de problème, généralement tout le monde prend un truc à picoler, et puis on essaie de enfin le but c'est quand même de remplir l'étage, donc pour l'instant on n'est pas encore assez nombreux, on n'est pas comme à Paris, on n'est pas 150 millions, donc on arrive à 30-35 personnes généralement.
Attends,
ce qui est déjà pas mal.
Ouais, à 30-35 personnes, il y a quand même de quoi s'amuser, déjà.
Ah ouais, carrément. Mais carrément, c'est carrément bien, c'est super.
C'est un petit peu comme lors d'une partout. Non, je vais pas la faire.
C'était un peu facile, quand même.
Et cet été, j'en ferai peut-être plus vers les lieux un peu nantais, genre l'éléphant, des trucs comme ça, pour avoir des trucs sympas.
Et est-ce que vous avez prévu un crossover, j'ai envie de dire, 3DS in Nantes versus DS in Paris?
Genre à Rennes, par exemple, au milieu, quoi.
Non, mais on pourrait le faire via le net, à la limite, faire un gros tournoi, genre un Smash Bros ou un truc comme ça.
Bah, il faudrait pas oublier non plus, enfin, je crois qu'il y a d'autres DS in quelque part. Donc, ça serait bien de faire un jour un grand rassemblement DS in alors, France, ouais. Un délire comme ça.
Ce qui serait rigolo, moi, je, alors dans mon autre vie, ma vie professionnelle, je travaille avec le Stade de France et ils cherchaient justement à faire des événements de ce type-là. Faudrait que je leur demande si ça les intéresse.
Parce que c'est éventuellement, ça peut être une idée. Ouais.
ça peut être sympa, quoi, comme lieu. Faudrait que je joue avec eux si ça les intéresse.
Dès
que Stade de France, ça aurait quand même de la gueule, quoi.
Bah ouais.
Privatiser tout le stade gratuit, ça va être tendu. Hein.
Ça aurait une autre gueule que la gueule de Zlatan sur l'Xbox One. Hein.
Ah ouais, non, ça c'est clair. Bon, bref, c'est quelque chose d'envisageable un jour de si tu veux faire une espèce effectivement de, je sais pas de. Enfin, est-ce qu'il y a une des... Au final, 3DS in Nantes et DS in Paris, c'est des associations ou ça n'a pas de statut particulier?
Moi, j'ai pas de statut.
Ouais, nous le délire au départ c'était justement de pas avoir de statut, on est juste une réunion de joueurs.
Parce que le côté flash mob imposait un peu ça aussi.
Ouais, et puis le côté aussi comment dire, pas de prise de risque, c'est-à-dire que au début on jouait sur les quais de Paris vers le quai des Orfèvres. Et il arrivait qu'il y a eu une ou deux personnes qui laissent leur Game Boy, leur 3DS de côté et qui se les fassent piquer. Et si on avait été une association, c'était tout à fait possible qu'on porte plainte contre nous, etc. Donc nous, on veut pas d'emmerde, on veut juste être un simple rassemblement de joueurs. Et voilà, sans prise de tête, sans gestion, sans trésorier, voilà.
Sans assurance aussi, parce que
tout à fait.
C'est un problème en fait quand on fait ça dans les bars. On est responsable un peu des gens qui sortent du bar aussi. Si tu ramènes du monde dans un lieu et que tu fais ça sous une forme associative, t'es responsable aussi de leur sécurité, on va dire, jusqu'à temps qu'ils sortent un peu, quoi.
Oui.
Et là, ça pose problème. Et puis, de toute façon, il faudrait faire des adhérents, des choses comme ça. Et là, c'est un peu chiant, en fait. C'est pas le but, en fait. Moi, j'ai pris exactement la même formule qu'à Paris. Et c'était sans prise de tête. Et surtout, si par exemple, moi, je suis absent, ça roule tout seul, quand même, quoi.
D'accord, mais du coup, si un jour il y a DS in Paris par exemple qui se dit on va essayer de faire DS in France et de faire un grand rassemblement dans un lieu loué à l'avance ou quelque chose comme ça, enfin d'essayer de faire un truc un peu exceptionnel, alors peut-être pour la 500e ou un truc comme ça, de se dire on essaie de faire un rassemblement un petit peu plus national quasiment, vous aurez quand même un petit peu des difficultés à le faire. Vous y avez déjà réfléchi ou vous vous êtes dit finalement bon non on le fera jamais ou on s'en fiche ou...
Ouais, non, c'est sûr que pour les ce genre d'événements où tu te dis que finalement si t'avais une association t'aurais un peu plus de poids pour créer quoi que ce soit, ça serait mieux de créer vraiment une assoc. Mais bon, c'est vrai que Nintendo nous connaît aussi derrière, qu'on commence nous à avoir quelques contacts. Je pense que rien n'est impossible à partir du moment où tu sais que derrière t'as une communauté qui commence à être vraiment assez importante, qui nous connaît, donc. Je pense pas que vraiment finalement être une association ou pas ça change grand chose.
Ok, tiens, petite question au sujet des. Enfin voilà, vous j'imagine que vous avez eu l'un et l'autre des lieux diversifiés à travers les âges. Est-ce que généralement les lieux où, enfin parlons des cafés. Voilà, vous décidez, tiens, ce café-là, il a l'air cool. Enfin, il est plutôt cool pour faire un DS in machin. Quelle réaction ont ces tavernes-là par votre à vos envies, votre initiative? Est-ce que c'est généralement bien reçu ou alors il y a eu des fois des tenanciers qui c'est un peu difficile de convaincre?
Moi, j'ai eu moins de problèmes en fait. On connaissait déjà le barman.
Oui, toi forcément, t'étais déjà.
Donc voilà. c'est moins compliqué et puis c'est un truc un peu artistique. Enfin, il y a pas mal de choses et il était au début, il savait pas trop. Il avait dit ouais, je sais pas comment ça va se goupiller, donc je te laisse la chance et puis je vais voir comment tu te débrouilles. Il a vu que les gens étaient cool et que ça s'était bien passé, donc il était. Maintenant, il nous attend tout. Enfin, il nous attend pas, mais en gros, il sait qu'on est là toutes les deux semaines. Voilà.
Ouais. C'est cool. Et à Paris, quel week-end ?
Il y a une époque où on a un petit peu galéré. C'était d'ailleurs une époque où ça se passait pas bien. C'est-à-dire que juste avant la sortie de la 3DS, il y avait un manque d'intérêt pour la DS en général. Donc il y avait un peu moins de monde. Et c'est vrai que du coup, on avait un bar qui du coup avait changé de propriétaire. On a cherché un autre bar et pendant quelques mois, on a un peu galéré. On a fait quelques DS au McDonald's, donc c'était pas vraiment super glamour.
Alors, et... DS in McDo,
c'était
du concept.
Je déconseille. DS in gras.
Je sais pas, j'ai déjà fait DS in Quick. Attendez, c'est le Quick La Défense, je crois. Non, c'est sympa. Hein.
Ouais, franchement, l'ambiance était cool, mais c'est vrai que c'est pas vraiment un lieu où tu peux rester longtemps. Tu peux pas gueuler comme dans un bar où tout est privatisé, où tout est libéré. Donc finalement, le bar qu'on a trouvé, c'était un parmi les nombreuses quêtes que j'avais, enfin les nombreux choix que j'avais déjà mis sur une petite liste.
C'était une quête secondaire.
Voilà, c'était une quête secondaire, et c'est un bar où on avait déjà joué il y a quelques saisons de ça. Je les ai contactés, la patronne était super sympa, elle a fait ouais, ok, machin, et puis ça s'est bien passé, donc on a continué, et puis on y est toujours.
Quête accomplie, quoi.
C'est ça.
Sans DLC, ni saison de passe, ni...
Mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué de dire, je vais ramener genre 30-40 personnes, ils vont jouer à la console. dans la tête d'un barman, et ouais. c'est 40 ouais. personnes qui vont prendre de la place et qui vont pas consommer, en fait. Ça reste quand même un bar. Et c'est vrai que c'est compliqué. Moi, je sais que l'été, par exemple, on évite d'aller en terrasse. Déjà parce qu'on voit que dalle avec la 3DS au soleil. Ouais. Et c'est compliqué.
C'est peuplé généralement, la terrasse, donc.
Ouais, c'est peuplé, voilà.
Pour le tenant, c'est voilà.
Du coup, nous, on reste à l'intérieur parce que, bah, c'est mieux pour lui aussi, quoi, de toute façon.
Ouais. Et bon, ouais, vous avez Paris, j'imagine, préfini ce 3DS maintenant, c'est une Nantes, mais est-ce que parfois il y a des... Je sais qu'il existe Vita in Paris, est-ce qu'il y a des gens chez vous qui vous font l'affront de prendre leur Vita avec eux?
Vita in Paris.
En fait, il y a un mec qui ramène... Il y a un mec qui sort sa PS Vita dans un bar, ça y est, c'est Vita in Paris.
Il y a un gars, ouais.
Est-ce que vous prenez parfois d'autres machines ou d'autres machins, ou est-ce que c'est
juste... Ils font Game Boy in Paris aussi.
Non, mais... Parce que c'est juste la console portable qui vous rassemble.
Non, bah, franchement, de toute façon, de base, on est tous fans de Nintendo, on a des liens avec Nintendo, mais on n'est pas non plus leurs associés, quoi. C'est-à-dire que moi, à partir du moment où j'ai vu des mecs qui faisaient Vita in Paris et qui jouaient un peu chez nous, je me suis dit, mais les mecs, vous ramenez du monde, tant mieux, quoi. Enfin, on va pas être sectaire non plus. C'est une console que je respecte, hein, que je ne vais pas forcément jouer dessus. Mais,
mais tu comprends, pour moi, la Vita, c'est un cas de force majeure, hein, expulsion, hein.
Non, franchement, voilà, on est tolérant, ils jouent, il y en a quoi, 3, 4, 5 des fois.
Donc c'est ça, ils sont tolérants. Alors, je vous rappelle la définition, on tolère un rhume. C'est pas pour ça que ça ne fait pas chier. Donc, non, en fait, voilà, ils ont réservé une table, celle, tu sais, qui a un pied qui est un petit peu branlant là dans le bar, il y en a toujours une comme ça.
On les met dans un coin.
La chaise où il y a un morceau un petit peu cassé, voilà, donc ça c'est le coin où tu peux faire Vita in Paris si tu veux. Quand t'arrives à trouver un pote.
C'est ça, non, mais c'est que...
Moi, je crois qu'il y a eu qu'une fois, moi, un mec qui est venu avec une Vita. Ouais.
Il n'est plus jamais revenu.
Bah, non, après, il a acheté une 3DS, quoi, comme tout le monde. Hein.
Ouais, voilà.
Ah, bah, voilà.
Mais tant que les gens s'amusent, c'est le principal.
Ah bah oui, c'est sûr. Est-ce qu'il y a des... Est-ce que parfois, enfin, j'imagine qu'il y a des gens qui reviennent dans son question, des 3DS et non, par exemple, qui se sont terminés en soirée plus intime autour de nuit ou d'une nuit.
Plus intime.
Plus intime, comment ça?
Plus intime.
Est-ce qu'on s'est un peu caressé la mablette
Voilà. Une manette avec une forme très suggestive et qui vibre en plus, donc c'est...
Tu veux venir toucher la Wiimote, c'est ça?
C'est l'occasion de rencontrer des gens, donc tu peux très bien te dire, ouais. Ok, moi, je suis sur le salon, j'ai envie d'essayer de multi, allez.
Je me suis fait des amis, en fait. J'ai de très bons amis maintenant que j'ai connus grâce au 3DS Nantes.
Mais c'est vrai que j'imagine bien le truc de t'as envie qu'on se termine en multi chez moi sur la Wii. Un truc pas du tout glauque.
Non, moi c'est plus des potes et des copines et tout, mais ouais. Ouh. non c'est...
Est-ce que vous avez tous les deux eu, parce que ça c'est une question qui intéresse énormément nos auditeurs lubriques, est-ce que vous avez eu des DS sex friend, parce que à la limite s'il y a moyen
Tu rentres dans la vie intime de nos...
Non, mais attends, ils peuvent tout nous avouer, c'est pas
tu peux faire plein de choses avec la 3D, donc... nous, alors moi je vais être un peu fleur bleue, on
à
a
vous,
eu des,
vous,
des couples qui sont créés à DS in Paris, qui sont toujours ensemble d'ailleurs, et alors après des trucs de sex friends, je sais pas, mais il y a pas mal de couples qui sont créés, puis moi j'ai pas mal de potes que je me suis fait au DS in Paris.
Tu te fais qui tu veux déjà.
Voilà, qui viennent plus au DS in Paris, mais que je vois toujours, qui sont devenus des potes habituels, quoi.
Ah oui.
Voilà.
C'est cool.
Les potes de bar, quoi.
Ouais, entre autres.
Très bien. J'ai une dernière plus triste ou nette. Bon, vous savez évidemment que Nintendo va fermer le online pour la Wii et la DS dans maintenant pour environ un mois. Est-ce que pour vous, ça va changer quelque chose, même si évidemment, vous jouez en local, vous ne jouez pas online, mais est-ce que ça vous inspire quelque chose ou quoi par rapport à l'avenir du jeu multijoueur sur DS par exemple, dans la mesure où 3DS in Nantes et DS in Paris, ce sera peut-être à peu près les seules opportunités qu'auront une poignée de gens pour jouer à des jeux DS multi.
Si ça peut pousser les gens à venir, tant mieux. Je suis tenté de dire ça. Après.
Donc, si ferme le online 3DS, c'est bon pour toi, quoi.
Non, pas le online 3DS, ils ne le fermeront pas, mais le online DS, franchement, qui y joue, quoi. À part télécharger les quêtes dans les Prof Layton, les trucs comme ça, ça fait au moins, je sais pas, ça fait 3-4 ans.
Toujours.
Ah, et moi, il y a juste un. Ah, si, ça va me faire chier. Ouais, pour Tetris DS, ça va me faire chier. Je pourrais plus
ouais, parce que Tetris DS, c'est vachement mieux que 3DS. Enfin, ouais. Perso, c'est.
Ah oui, c'est le meilleur aussi.
Mais c'est marrant, cette.
Je pourrais plus jouer contre les petits japonais. Fais chier.
Cette voilà. Remarque, en fait, on a fait un podcast aussi DS in Paris jeudi, et un de. Robin, qui est un autre membre de la DS in Paris, avait fait cette remarque justement en disant que c'était chiant que les serveurs se ferment, mais effectivement il y en a peut-être plus énormément des joueurs, mais il y en a encore quelques-uns, donc c'est vrai, forcément tu peux plus jouer à même, il y a les serveurs Wii, je crois, donc Mario Kart Wii, bah tu voulais jouer en ligne, c'est
ouais,
mort, quoi,
tout Wi-Fi connection, ouais. En fait, donc ouais, c'est Wii et DS,
et en fait je crois que c'est la société qui hébergeait les serveurs qui ferme tout simplement.
Il y a deux dojo bars, donc si vous voulez plus d'infos là-dessus vous pouvez réécouter les dojo bars, sinon techniquement c'est juste que Nintendo paye pas ses factures.
Voilà.
En gros, donc,
c'est une petite société, c'est normal.
Oui,
c'est pas une petite société que ça, mais voilà. Enfin, si vous voulez plus d'infos là-dessus, on en a discuté en détail il y a deux ou trois dojo bars. Éventuellement, je remettrai le lien sur le podcast. Très longuement d'ailleurs, parce qu'on a vraiment discuté de la mort de la partie Wii et DS. Moi, j'ai. Alors, je sais pas si t'as une dernière question, Méduse, peut-être.
Non, j'ai plus d'autres questions, mais je vais en profiter pour rappeler que nous, au dojo, on va organiser avec Nintendo Man très bientôt. Bon, on n'a pas encore décidé de la date, des sessions sur quelques jeux Wii et DS en ligne, vu que ça va bientôt mourir. Donc, qui le veut peut nous rejoindre. Donc voilà, si nous on a envie de jouer à quelques jeux, plus que découvrir les jeux qu'on n'a pas pu essayer le multi. Donc voilà, on va essayer de goupiller les dates. Sur le forum du dojo, dans la partie rencontre en ligne, il y a un sujet. Voilà.
Moi j'ai une dernière petite question avant de se quitter, j'aurais juste un tout petit truc à dire après. Est-ce qu'il y a des grands classiques de 3DS in Nantes et DS in Paris? Est-ce que vous avez il y a des jeux fétiches que vous retrouvez systématiquement? À part on va dire les très grands classiques que tout le monde imagine, est-ce qu'il y a des jeux où vous auriez pas soupçonné que le multijoueur soit si bon et finalement tout le monde s'est mis à y jouer?
Oula, moi Tetris DS. Clairement, c'est celui-là. Parce qu'au début, je parlais de Tetris, histoire de voir un peu s'il y avait des joueurs dans la salle. Et on a commencé à y jouer, et au final, ça a même fait acheter les. Enfin, les gens ont acheté les Tetris DS sur le net. Même si on peut jouer en partage. Il y en a pas mal qui l'ont acheté. Sinon, non, après, c'est du Mario Kart, Animal Crossing, des choses comme ça, quoi. Ça reste assez classique, mine de rien. C'est pas forcément. Genre, Inazuma Eleven, il y en a très très peu. Pokémon, il y en a 15 000.
Kid Icarus, il y en a quand même un peu aussi.
Kid Icarus, il est quasiment plus joué. Il y a un gars qui l'a ressorti la dernière fois, donc c'était plutôt sympa. Je sais qu'on jouait à Wendan à un moment. On en jouait pas mal. Donc là, en fait, on a plus hâte que Smash Bros. Débarque cet été sur 3DS, quoi. Parce que mine de rien, ça commence à faire un peu.
Smash Bros,
on
l'attend tout ça, franchement.
Ouais, Smash Bros, je pense que c'est ce qui va relancer, même si ça marche bien nos soirées là sur Paris ou
ouais.
Mais je pense que ça va relancer un peu le truc. On fait beaucoup de Street Pass, beaucoup de choses comme ça.
Puis quand
ça,
tu vois le souci, je sais pas si chez vous il y avait des mecs qui jouaient à Jump Ultimate Star.
Ouais, si.
Mais voilà, donc ça va être le puissance 1000, quoi. Ça va être
Jump Superstar, on l'a ramené la dernière fois histoire de montrer un peu à certaines personnes qui connaissaient pas. Et ouais, du coup ils ont fait, mais si c'est comme ça, Smash Bros, moi je prends, quoi. Enfin, ils s'imaginaient pas sur une petite console pouvoir s'amuser comme ça. Donc
ouais, non, c'est vrai que t'as des jeux. Chez nous en fait il y a tous les jeux. Habituel, Mario Kart, etc. Mario Kart DS, on l'a bien saigné. Il y avait une équipe de snakers bien folle à l'époque. Et sinon, il y avait des jeux un peu plus confidentiels, du genre GoldenEye au service du mal, qui était bien pourri, mais on s'est bien marré dessus. Il y avait quoi? Il y avait LOL. Je sais pas si vous avez testé LOL. Ah, Météos, bien sûr. LOL, c'est une sorte de dessiner ses gagnés à 4. T'en as un qui commence un dessin ou qui fait un thème, et les autres doivent soit poursuivre le dessin, soit dessiner le thème. Et ensuite, à la fin, tu notes quel a été le meilleur dessin. Et forcément, ça partait en bataille de dessins de bites et tout. Donc,
c'est un grand classique.
Ouais.
C'est
un grand classique.
Ça fait un jeu de test, alors.
Voilà, ouais. LOL. Et c'est vrai que tu te marres bien dessus.
D'accord. Bon, eh bien, je vous remercie beaucoup.
J'aurais une dernière question, mais vas-y. T'avais un truc à dire après, donc je sais pas si c'est...
Non, mais vas-y, pour ta dernière question, c'est juste...
Moi, j'aurais une dernière question. Voilà. Bon, imaginons, pour notre milliard d'auditeurs, qui eux aussi cherchent à jouer à certains jeux en ligne et qui peuvent pas, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui veut se lancer dans un DS in sa ville pourrie? Sa ville pourrie, pas d'un million d'habitants comme Paris, hein, ou... voilà.
En fait, ça a lagué un petit peu. Tu veux dire quel conseil donner à quelqu'un qui veut lancer un DS in quelque part, c'est ça?
Ouais, le concept.
D'accord.
Voilà. DS in Aurillac.
Voilà. Non mais alors, on a souvent des mails comme ça de gens qui veulent quelques conseils. Donc, bah, c'est très simple. Généralement, c'est déjà de trouver 2-3 potes qui vont suivre sur le long terme, parce que histoire qu'il y ait une petite base installée de personnes qui viennent régulièrement. Trouver un lieu. Si possible, essayer
faire
de
faire du gratuit.
Du gratuit, pas faire de partenariat, parce que après t'es un peu bloqué avec le partenariat, les mecs te demandent de faire ci et faire ça, donc faut essayer de rester indépendant. Et ensuite, bah, trouver un endroit cool, trouver un rythme cool, parce que voilà, tu peux faire ça toutes les semaines, mais effectivement, toutes les deux semaines, c'est cool aussi. Et, faut vraiment trouver son rythme, faire à sa façon. Et petit à petit, les choses se font tranquillou. Et là, nous, on reçoit régulièrement des mails. On a DS in Metz, DS in Bordeaux. Et voilà, c'est pas super compliqué. Puis n'hésitez pas. Hein, franchement, si vous êtes dans votre ville et que vous décidez de lancer le concept, des fois, il suffit de commencer à 3 ou 4 joueurs. Et petit à petit, fil en aiguille, le concept se lance, quoi.
Il faut surtout prendre son temps, en fait, parce que
voilà.
Il y en a pas mal, j'ai l'impression qu'ils veulent commencer avec 40 personnes directes.
Mais non.
Déjà, c'est ingérable, parce que c'est compliqué. Faut prendre son temps, genre la première année, voilà, la première année, tu sais, te stabiliser dans un lieu, c'est déjà pas mal. Que le lieu, enfin, le barman dise ok, vous pouvez venir toutes les 2 semaines, il n'y a aucun problème et tout. Et après, tu commences à faire un peu de pub et autres et à faire venir du monde. De toute façon, c'est le bouche à oreille qui marche.
C'est tout à fait ça, ouais.
C'est beaucoup le bouche à oreille.
Sur la taille, je pense. Enfin, fondamentalement, à partir du moment où t'es deux, tu peux jouer en multijoueur. Donc, si t'arrives à avoir une base de 4 à 10 personnes, c'est déjà bien pour démarrer.
Mais, tu sais, nous, à l'époque, avant que la 3DS sorte, les DS in Paris, il n'y avait plus grand monde. Et on était, par session, on était 15-20, des fois même moins. On était des fois 10, mais on s'amuse quand même. Hein.
Ah bah oui.
J'ai fait la première 3DS in Nantes qui était gratuite. Je l'ai appelé 3DS à l'arrache édition et on était 10. Et en fait, c'était une des vraiment, vraiment bien de la première saison. Il suffit pas d'être 40, en fait. Si t'as 40, mais t'as personne qui joue ou qui a pas vraiment d'ambiance, ça sert à rien, quoi.
Tout à fait, ouais. Nous, sur Paname, on a aussi ce qu'on appelle les DS pirates. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de DS organisé ou que les gens ont décidé d'en faire une à côté, par exemple un dimanche, etc., on leur laisse le forum pour en lancer une. Et donc ils peuvent l'organiser comme ils veulent, voilà. C'est l'intérêt aussi d'être un truc un peu indépendant, c'est que les gens font ce qu'ils veulent, quoi. C'est leur concept aussi.
Exactement. Mortel,
moi,
je
boucle tout, moi.
J'ai jamais participé parce que j'ai jamais eu l'occasion, en fait, Sophie, comme ça, c'est que je suis relativement occupé, je suis pas tout près de Paris, donc j'ai quand même un peu de transport pour y aller. Mais c'est vrai que j'aimerais bien aller une fois de temps en temps, simplement parce qu'il y a des multis que j'ai jamais testé, du coup, donc c'est un peu con.
T'as jamais fait de trucs à plusieurs?
Si, j'ai fait plein de trucs à plusieurs, mais voilà. Non, mais il y a plein de multis que
pour
j'ai...
Pour le Street Pass aussi, hein.
J'ai pas pu essayer. Pour le Street Pass, c'est sympa. Et c'est vrai que pour avoir fait le concert Zelda l'année dernière, où tout le monde street passait dans tous les sens, c'était de la folie. Tu clapais ta console, tu l'allumais, t'avais 10 personnes de plus, c'est vrai que c'est quand même assez grisant.
Et tu peux aussi réussir à faire pas mal de prouesses, parce que nous, des fois, on fait des journées à thème. Genre, une fois, on avait fait une DS in Paris, on avait dit, bah, tout le monde se met en femme, et du coup, tu faisais hop, les 5 mi-féminins d'affilée, tu faisais des trucs comme ça, quoi. Donc, des fois, on va dire, tout le monde va se mettre en couleur bleue pour faire mieux mis en péril ou je sais plus quel autre jeu Street Pass, etc. Donc, on peut orienter un peu les DS in Paris dans ce sens-là pour rendre le truc un peu plus amusant.
D'accord, ça peut être effectivement très rigolo. Oui, juste avant de conclure, je voudrais dire, parce que je sais pas si on l'a dit au début, il me semble que non, à Dash Emmett et Dr. Mario, s'ils nous écoutent, que donc leurs lots sont arrivés. Il n'y a pas de souci, mais il faut le temps qu'on les dédicace, et j'ai pas eu le temps de le faire, qu'on les remette dans des enveloppes, qu'on leur envoie, donc pas de panique, ça arrive. Ça a mis un petit peu de temps, je sais, mais ça arrive. La prochaine fois qu'on fait un concours avec des lots, on essaiera d'aller un petit peu plus vite.
Avec des lolos.
Ça y est, il est 22h24 et 26 secondes, Méduse a atteint son taux d'alcoolémie limite.
Voilà.
Voilà. Donc, on va se quitter. Merci beaucoup, Kaliken, d'être venu pour parler de DS in Paris.
Mais je t'en prie.
Merci, Fro, d'être venu pour parler de 3DS in Nantes et pour parler de Game Boy avec nous.
Il vous en prie.
On voilà. est prêts, hein.
Et merci, Méduse et Kaliken. J'espère qu'on te reverra maintenant que t'es abonné
merci
à...
Maintenant que t'es abonné à
maintenant
que j'ai compris comment ça marchait.
Maintenant que, ouais. voilà, maintenant que t'as réussi à brancher ton micro, ça serait quand même dommage voilà. que t'arrêtes maintenant.
Facile, facile. On est
avec
bâtards.
Plaisir.
On organise un dojo bar, on envoie le programme, le sujet t'intéresse, tu veux venir en parler, ben voilà, c'est ouvert.
Ah ben
voilà.
Avec grand plaisir.
C'est toujours open. Bon, allez, sauf si quelqu'un a une blague. Alors moi, si vous voulez, j'ai une blague, mais comme elle est visuelle, ça va être un peu compliqué. Donc je vais pas la faire maintenant.
J'ai une devinette, t'es con.
si. Non, encore.
Ça va peut-être un sujet d'actu, mais je le dis tellement à chier que je vais le mettre en devinette. Il y a le merde, le directeur principal sur, je sais plus comment il s'appelle, sur le NES Remix, qui était celui aussi derrière Mario Galaxy 2 et le level design de Mario Galaxy, qui a dit on aurait pu faire NES Remix sur 3DS, mais quoi?
Mais on n'avait pas le temps.
Mais couilles.
Non.
Mais la, mais la 3DS n'est pas assez puissante.
Exactement. C'est la vérité. C'est IGN qui lui a posé la question. Il disait, bon voilà, on a des NES Remix sur Wii U, pourquoi on n'en a pas sur 3DS? Et le type a simplement dit, ben, je viens de faire Super Mario 3D World. Je suis habitué avec le cours, je ne me suis pas fiché avec la réponse. Je trouve ça un petit peu fort comme, comme réponse. C'est même pas qu'il y a, si ça tombe, il y a une raison marketing derrière du type, bon, la Wii U marche pas, on va plutôt faire un jeu sur Wii U que sur 3DS, dans la mesure où, de toute façon, vu le peu que ça nécessite, ça va être à peu près la même chose. Mais, le type a dit ça. Il a dit que la 3DS était pas assez puissante pour ça, que la Wii U avait la puissance qu'il fallait.
Bref.
Voilà,
bon,
c'était la devinette de fin.
C'était la devinette de fin.
Ta gueule et mes Tetris.
Voilà, ta gueule et mes Tetris. À la prochaine. Salut.
Allez,
ciao.
Allez.